Hélène Sautrio, sage-femme à Digne-les-Bains. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de formation contre les violences sexuelles, c'est ça ?
Oui, il s'agit d'une proposition qui est faite par l'association qui s'appelle Stop aux violences sexuelles, qui est une association nationale, et qui cherche vraiment à créer des réseaux dans tous les territoires pour que les gens soient informés et pour qu'on puisse se mobiliser autour de ce sujet des violences sexuelles.
Alors, c'est une formation qui a été maintes fois repoussée en raison de la crise sanitaire, du Covid. Ça devait avoir lieu à Fort-Calquier et on a la chance que ça se passe maintenant à Digne.
À Digne, oui, le 24 et 25 septembre 2022 à la salle Perchaud.
Donc, c'est une formation qui s'adresse à tous les publics ou aux professionnels ?
Vraiment à tous les publics. Adultes, je dirais, parce qu'il y a déjà des enseignants qui m'ont demandé pour leurs élèves de collège ou de lycée. Bon, je pense que c'est quand même plutôt à destination des adultes, mais c'est vraiment pour tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent éventuellement se sentir concernées, ou en tout cas qui, même s'ils ne se sentent pas concernés, je crois qu'on l'est tous, en fait. Donc ça peut être des enseignants, des policiers, des avocats, des éducateurs sportifs, hein, tout le monde, en fait, tous les gens qui ont pu, soit qui ont pu parfois détecter des warnings, des alertes par rapport à des personnes qui auraient pu subir des violences sexuelles, soit des thérapeutes qui peuvent aussi proposer ensuite des choses, parce que le but, c'est quand même de se mettre en lien tous, ou des gens qui eux-mêmes ont pu vivre des choses et n'ont pas forcément encore mis les mots, et je pense que c'est un bon lieu pour pouvoir entendre certaines informations et voir après comment être accompagné.
Alors, j'ai envie de dire, c'est affolant tout ce que... Bon, la libération de la parole se fait de plus en plus. On apprend tous les jours dans les informations des violences, des viols subis. C'était beaucoup dans le domaine sportif, les éducateurs sportifs, mais on se rend compte aussi que dans les cabinets de gynécologie ou d'autres, il y a aussi des agressions sexuelles. C'est bien qu'on en parle, mais en même temps, c'est affolant de voir à quelle fréquence ça arrive, quoi.
Bien sûr, on dit que mais c'est vraiment des évaluations qui sont difficiles à faire, parce que parfois, on ne met pas vraiment des mots là-dessus. Mais on dit que c'est un enfant sur cinq, une femme sur quatre ou un homme sur six. Ça peut être très, très décourageant. Et en même temps, je pense que la libération de la parole, elle va permettre aussi que les gens réalisent ce qu'ils ont vécu et qu'ils puissent avancer. C'est vraiment le but de cette association. C'est pas juste de mettre l'étiquette victime. C'est vraiment de voir comment on se reconstruit après ça. On va même aller plus loin. Moi, depuis que j'ai rencontré cette association et on avait participé il y a 3 ans maintenant à justement une formation sur le 0405, mais pour créer un réseau local, c'était un petit peu loin. Mais depuis que je participais, je me rends compte à quel point on est nombreux à être concernés. Et il y a vraiment des choses à faire, à mettre en place. Et ce n'est pas une fatalité, on ne reste pas victime toute sa vie. Derrière le terme violence sexuelle, il y a plein de choses. Vous parliez des viols, mais pas seulement. Il y a des choses qui sont faites sans violence et qui sont des violences sexuelles. On parlait des consultations gynécologiques ou obstétricales. Enfin, ça peut être une violence. L'intention n'est pas forcément de l'auteur, mais en tout cas, c'est vécu comme tel. Et donc, c'est tout ça qu'on va essayer d'expliquer lors de ce week-end de formation qui est gratuite, hein, qui est vraiment ouverte à tout le monde, pour essayer de mieux repérer et ensuite de voir quels outils on a et qui peut proposer ces outils aussi sur le territoire pour que les gens ne restent pas avec cette souffrance qui est parfois pas claire pour eux et qui peut engendrer de nombreux troubles. Que ce soit des troubles... parce qu'en fait, quand on est intrusé, on parle comme ça, quand on est intrusé, ça vient complètement casser la représentation, le schéma corporel de la personne, surtout si elle est très jeune. Et ça peut vraiment créer une telle violence en elle que soit elle se retourne contre eux, donc ça peut faire des tentatives de suicide ou des comportements addictifs avec des prises de drogue. Ou alors, ça peut se retourner contre quelqu'un d'autre. Et on dit que 90% des auteurs sont des anciennes victimes. Donc, heureusement, toutes les victimes ne deviennent pas auteurs. Mais il y a vraiment un enjeu aussi à dire, non seulement on va aider les victimes à avancer, à se réparer, mais on va aussi, soyons optimiste, on va éviter qu'il y ait d'autres auteurs plus tard si on arrive à mieux à prendre en charge les victimes.
Oui, donc il y a les victimes peuvent aller consulter, avoir des aides psychologiques.
C'est là que ça va être tout l'enjeu de cette formation, et on espère pour ça qu'il y aura beaucoup de monde, qu'il y aura surtout une variété de personnes qui seront là, parce que ça permet de mieux savoir, parce qu'actuellement c'est compliqué, on n'a pas... Il y a des gens qui ont l'habitude de prendre en charge des personnes en souffrance psychologique, par exemple, mais qui ne sont pas forcément très bien formés sur les violences sexuelles. Il y a des professionnels médicaux qui ne se rendent pas compte, qui n'ont pas l'intention, mais qui, dans leurs gestes, redéclenchent. Si, en général, c'est quelqu'un qui a déjà vécu un traumatisme avant, mais un geste peut du coup, réveiller une mémoire de violence sexuelle et être, du coup, très... déstabilisant pour la personne. Donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourra mettre en place. C'est pas simple, hein, parce que toutes les prises en charge, souvent, c'est des prises en charge qui sont pas prises en charge, qui sont pas remboursées par la Sécu, par exemple. Mais il y a quand même des choses, pas forcément, on part pas sur des années de traitement, il y a des choses où simplement n'importe qui a eu cette formation pourra peut-être déjà mettre les bons mots et orienter la personne pour qu'elle puisse aller chercher dans ses propres ressources comment se reconstruire et comment casser ce schéma qui peut être... je disais que ça pouvait entraîner des comportements addictifs, tout ça, mais ça peut même entraîner des choses encore plus difficiles à déceler parce qu'on se rend compte qu'il y a des maladies auto-immunes, des pathologies qui sont réellement physiques et qui sont beaucoup plus fréquentes chez les gens qui ont subi des violences sexuelles. Ça veut dire que le corps, il fabrique des anticorps contre lui-même. C'est quand même assez fort comme message.
Oui, le moindre choc. En général, quand on a un traumatisme, ça casse quelque chose en nous, dans le système immunitaire aussi. On n'en est pas forcément conscient, quoi.
Alors, je ne dis pas qu'on puisse soigner l'endométriose ou les problèmes de sclérose en plaques ou de spondylarthrite par... juste parce qu'on a mis le doigt sur... Mais ça peut contribuer à ce qu'ensuite la personne puisse commencer un chemin de guérison. Et j'espère aussi qu'il y aura... normalement, il doit y avoir des représentants, des forces de l'ordre, des représentants de la justice. Parce que là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que, comme vous dites, en ce moment, c'est la grande mode. Et il y a beaucoup de paroles qui se libèrent. Mais il y a aussi beaucoup, du coup, de méfiance et puis des gens qui réagissent, du coup, en opposition, en disant « Ah bah oui, mais alors maintenant, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. » Et l'idée, elle est surtout de dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants maintenant, pour les aider à grandir dans un monde où ils ne vont pas se sentir... on ne va pas les mettre sous cloche. Il ne s'agit pas de penser que tout le monde est potentiellement un agresseur. » Mais comment on leur donne des bonnes bases pour qu'ils puissent repérer et se protéger, y compris en tant qu'adultes, si on a des enfants, avec nos propres enfants, quoi. Quelles sont les limites? Même si nous, on n'a pas d'intention mauvaise, comment on lui apprend à respecter son corps et à se faire respecter? Et puis aussi, tout ne passera pas forcément par la justice, malheureusement, même s'il y a des fois où ce serait nécessaire. Mais c'est pas parce que la justice résout pas tout qu'il faut rien faire, quoi. Il y a des choses, même si la personne, elle se rend compte qu'elle a vécu quelque chose il y a 40 ans, c'est pas trop tard. Par contre, c'est pas d'aller... ça se trouve, son agresseur est même déjà mort. Mais c'est de voir comment elle peut, malgré ça, avancer, changer ses schémas. Parce que c'est presque de la mémoire cellulaire, en fait. C'est pas... parfois, c'est pas conscient, c'est... Mais il y a des choses qui se passent et qu'on peut vraiment, avec des techniques en psychocorporelle, où il y a des équipes, alors on n'en est pas là, mais il y a des équipes de SVS là, qui ont fait des ateliers d'escrime, où en fait c'était très encadré avec des psychologues et des maîtres d'armes, je crois qu'on appelle ça comme ça, les anciennes victimes venaient et donc étaient armées, masqué et faisait tout un travail en escrime pour apprendre à faire sortir la violence qu'ils avaient emmagasinée pour que ce soit accompagné. Et c'était apparemment, c'est des ateliers qui sont très aidants pour les personnes Mais voilà, c'est un truc qui se construit, mais pourquoi pas faire ça un jour dans le 04.
Tout ça est bien, bien complexe. Hein. Enfin, on parlait par rapport même à la prévention. Enfin, moi, personnellement, je me souviens, il y a très longtemps, quand ma fille était petite, je la mettais en garde sans arrêt et je la faisais flipper complètement parce que méfie-toi des messieurs, des machins. Et ça l'a un peu trop... Mon angoisse s'est répercutée sur elle et on ne sait pas trop jusqu'où... Comment doser, quoi? Comment doser pour pas non plus les traumatiser par...
Surtout que les agresseurs sont souvent des agresseurs intrafamiliaux ou dans des proches, quoi. Et que l'agression vient pas forcément d'un pervers qui se balade dans la rue. Et l'agression est parfois faite sans violence. Mm-hmm. Hein, donc on est d'accord qu'on n'est pas en train forcément de parler de viol. Les termes au niveau juridique sont assez clairs. Hein. Un viol, c'est une pénétration du corps de la personne par un objet ou un membre du corps. Mais après, il y a des agressions, on appelle ça agression, où c'est des caresses, des baisers inappropriés avec le non-consentement de la personne. Et ça, c'est plus compliqué, surtout si ça vient de quelqu'un qu'on aime.
Et oui.
Y compris de son propre compagnon, parfois. Enfin, voilà. Donc, je crois que pour ce qui est des enfants, oui, c'est compliqué. Et en même temps, moi, je suis plutôt assez optimiste. Il faut vraiment non pas leur parler d'un monde où tout le monde serait potentiel agresseur, mais vraiment leur dire que on doit, nous, déjà les respecter. Moi, j'ai travaillé en maternité... À aucun moment, les personnels qui s'occupent des bébés ont l'intention de faire du mal aux enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller leur mettre un thermomètre dans les fesses, un coton dans le nez c'est déjà...
une agression.
S'il n'y a pas vraiment une intention de... Enfin, si ce n'est pas vraiment une indication absolument nécessaire... Ça nous fait réfléchir. Je ne dis pas que je n'allais pas le faire, mais en tout cas, tous les gestes qu'on fait avec nos enfants, de réfléchir à est-ce que c'est vraiment utile pour lui, et même si c'est un nouveau-né, est-ce que voilà, je lui explique mon geste. Ça peut paraître... y en a qui trouvent ça exagéré, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'il construit les limites de son corps et qu'il voit comment il peut dire non. Alors c'est sûr que pour certaines choses... parfois on dit non, les parents ils doivent quand même expliquer à l'enfant. Vraiment, l'enfant il doit aller très vite vers l'autonomie et le parent il n'a pas tous les droits sur l'enfant. Et s'il y a un moment donné il y a quelque chose de vraiment important à transmettre, il saura le dire à son enfant. Les enfants, je dis souvent aux mères, ils vous connaissent de l'intérieur, hein, et les pères c'est pareil, ils les connaissent très bien. Donc après, s'il y a vraiment une nécessité de faire un soin, de faire un... Il le comprend, l'enfant. Et là, il va comprendre le geste et il va être OK. Donc, faisons confiance à nos enfants sur ça. Et puis, nous, vraiment, posons-nous les questions. Même les baisers. Il y a un très beau film d'Andrea Boscon là, qui s'appelle Les chatouilles.
Oui.
Qui dit comment des chatouilles, les moments où on les dévore de bisous. Évidemment que pour nous, c'est plein d'amour. Mais... on voit bien comment, quand ils grandissent, parfois, c'est un jeu, ça peut être dans le nom, etc. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Comment on trouve notre limite? Il ne s'agit pas de plus embrasser nos enfants, il ne s'agit pas de... mais moi, je vois souvent, encore maintenant, des enfants qui ont dit « Allez, c'est Hélène, c'est la sage-femme, tu vas lui faire un bisou. » Non, c'est bon. Mmh. Il m'a dit bonjour avec les yeux, ou il m'a dit bonjour avec sa bouche. Il n'y a pas d'obligation de faire un bisou. Sinon, c'est complètement contradictoire avec ce qu'on leur dit après, de méfie-toi des gens que tu ne connais pas dans la rue. Puis après, c'est va dire bonjour à la vieille dame. Ça ne colle pas. Donc, c'est vraiment leur apprendre à... Oui, on est des êtres sociaux et on se dit bonjour. Mais notre corps, on le respecte et on fait les choses quand on le sent. En psychocorporel, c'est ça qu'on propose aux gens, c'est de dire vraiment qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Est-ce que ça fait oui ou est-ce que ça fait non? Le problème, c'est que le mental prend souvent le contrôle et après on se dit oui, mais bon, là, il serait bien quand même de... Elle est gentille, je vais quand même aller vers elle. oui, mais là, si je le fais pas, après, on va me reprocher. Et du coup, on est dans le mental, on n'est plus dans le corporel. Donc, d'apprendre ça très tôt avec nos enfants, et nous, en tant qu'adultes, on peut encore l'apprendre.
Donc, vous êtes sage-femme, mais pas seulement. Alors, vous êtes formée à ces approches-là, ou quel est votre rôle dans cette formation ?
Ben, oui, je suis toujours sage-femme, mais les sages-femmes, encore une fois, on s'occupe des femmes tout au long de leur vie de femme. Donc en fait, j'accompagne les femmes au niveau de la prévention en gynécologie et puis bien sûr autour des grossesses. Donc de ce fait-là, je suis amenée à rencontrer beaucoup de femmes, en plus dans des périodes de vie où il y a des choses qui peuvent remonter. Et oui, j'ai fait la formation, cette formation qu'on propose là, qui est gratuite, ouverte à tous. Et suite à ça, on a fait une formation spécifique en périnatalité avec Nicole Andrieux, qui est une sage-femme sexologue qui travaille beaucoup avec SVS sur ces sujets de violence sexuelle. Donc ça m'a aussi donné encore plus d'outils pour ensuite, moi, accompagner les patients directement. Parce qu'effectivement, transférer à chaque fois à quelqu'un qui serait formé, un psychologue, parfois c'est compliqué. Donc il ne s'agit pas de faire leur travail, parce que c'est pas la même chose, mais au moins d'amorcer des choses pour que la personne puisse commencer à comprendre peut-être l'origine de ses problèmes et à mettre en place quelque chose pour faire une thérapie.
Hélène Sautriau, donc on rappelle, comme vous parlez de tout naturellement, vous, de SVS, c'est Stop aux violences sexuelles, c'est une association, un collectif ?
C'est une association nationale.
Et donc, le rendez-vous, c'est le 24 et 25 septembre. Il faut s'inscrire à l'avance.
Alors, ça serait bien, oui, qu'on puisse un peu savoir.
Parce que vous pouvez accepter combien de personnes ?
Alors, je crois que la salle Percho, il me semble bien que c'est une centaine de personnes. Et donc, on peut s'inscrire en envoyant un mail à... c'est 24 et 25 septembre 2022, tout attaché. @orange.fr. Sinon, il y a un lien en fait pour s'inscrire directement, mais bon, ça c'est pas. Il faudrait que je vous le donne, que vous puissiez le mettre sur le site pour oui. pouvoir s'inscrire directement.
Sinon, c'est donc 24 et 25 septembre 2022, tout attaché.
@orange.fr.
Orange.fr. C'est gratuit et vous pouvez recevoir jusqu'à 100 personnes.
Voilà. Et on sera plusieurs à co-animer. Vraiment, je sais que 24 et 25 septembre, c'est encore des belles journées, normalement. Et moi, la première, hein, quand j'y suis allée la première fois, je me disais, allez passer un week-end à parler de violences sexuelles, c'est pas le truc le plus joyeux. Mais vraiment, j'espère que ces journées seront riches. Et moi, je m'engage vraiment avec l'équipe avec qui on prépare à faire en sorte que ce soit le plus constructif possible pour la suite, qu'on puisse créer un réseau. Et que, bien sûr, le sujet est lourd, mais j'espère que ça va vraiment apporter beaucoup aux personnes qui seront là, aux personnes que les uns et les autres accompagnent. Et j'ai vraiment espoir que ce soit de belles journées.
Est-ce qu'on peut parler des autres intervenants ?
Oui, alors il y a Simone Sabatier qui vient du Var, qui est engagée depuis longtemps dans l'association et qui fait un accompagnement en psychocorporel essentiellement. Et puis il y a Jacques Leloutre qui est médecin addictologue à Digne. Donc je vous disais tout à l'heure que tous les problèmes d'addiction, bah, c'est souvent, très souvent, on retrouve en fait des antécédents de violences sexuelles. Donc ils se rendent bien compte, les gens qui travaillent en addictologie, qu'on ne peut pas accompagner la personne si on ne vient pas aussi travailler sur ce problème-là. Voilà, donc, et puis après, il y aura une avocate de Manosque, Maître Horta, qui vient nous parler de la partie juridique, parce que ça, c'est toujours plus facile, c'est quand même un langage un peu particulier. Puis j'espère qu'elle sera aussi là pour répondre aux questions. Puis je sais qu'il y aura dans la salle des gens qui sont spécialisés, entre autres à la gendarmerie, dans les cellules Mélanie, donc pour écouter les victimes, entre autres les victimes mineures. Donc tout ça permettra, j'espère, que voilà, nous on est dans l'organisation, mais après les gens qui sont là, bien sûr, peuvent témoigner et apporter aussi leur contribution.
Ce sont donc, ce sera la première fois sur Digne, c'est Stop aux violences sexuelles, les 24 et 25 septembre 2022. Est-ce que ça existe depuis longtemps, ce type de rencontre, de formation?
C'est quand même, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Stop aux violences sexuelles, c'est une association qui doit avoir une dizaine d'années maintenant. Mais qui se développe beaucoup justement parce que ils ont misé sur le fait de créer, ils appellent ça des plateformes locales, quoi, selon les territoires, pour ensuite mettre en place vraiment des choses localement. Il y a beaucoup de choses maintenant, on le disait, la parole se libère, il y a beaucoup d'associations, il y a aussi le centre d'information des droits des femmes et des familles qui fait beaucoup par rapport aux violences, alors violences faites aux femmes. Mais pas que, et violences intrafamiliales. Je pense que tout est très complémentaire. Là, il s'agit d'orienter encore un peu plus sur les violences sexuelles, sachant que les violences conjugales, enfin, il y a souvent des violences sexuelles avec. Hein. Mais voilà, c'est. Je pense que moi, ce que j'apprécie dans cette approche-là, c'est que là, on essaye aussi vraiment de mettre les gens en réseau et de pouvoir trouver des solutions après localement. Et c'est l'étape suivante pour moi. C'est que voilà, il y a déjà d'être informé, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et après c'est comment on fait. Comment on fait chez nous, comment on fait avec les problématiques. Le désert médical, il touche aussi la prise en charge. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les CMP, là, dans les centres médico-psychologiques, il y a 4 ans d'attente pour avoir une prise en charge. Donc c'est qu'est-ce qu'on met d'autre en place, quoi. Et comment quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de faire une thérapie payante, comment il peut au moins se dire, mais là, je ne pars pas sur 4 ans d'analyse. Mais voilà, quels outils on peut mettre en place. Donc, j'espère que ça va fonctionner comme ça. Moi, je sais que c'est aussi quelque chose qui m'avait touchée la première fois, c'est que ça vient vraiment nous faire travailler aussi sur notre propre expérience. Et si ce n'est pas la nôtre directement, bon, c'est heureusement que 1 sur 5, ce n'est pas non plus tout le monde, mais c'est déjà beaucoup. Mais du coup, comme c'est 1 sur 5, il y a forcément des situations, des cas qui vont être exposés où on se dit « Oh, mais ça me fait penser à... Tiens, d'ailleurs, ma mère, ma sœur, mon cousin... » Et du coup, ça remue beaucoup. Et là, on est là aussi pour ça, puisque justement, nous, on a été un peu formés pour que s'il y a des choses qui ressortent, les gens se sentent en sécurité et qu'ils ne soient pas plus mal à la fin du week-end que quand ils sont arrivés.
Hélène Sotrio, merci beaucoup. Et puis, donc, cette émission sera en ligne aussi. Et donc, le rendez-vous, c'est le 24 et 25 septembre. Ça tombe donc...
Samedi-dimanche.
Samedi-dimanche. C'est toute la journée, donc de 9h à 18h. Ces deux jours-là, avec donc Simone Sabatier, Jacques Leloutre, Hélène Sotrio, pour les intervenants, et donc une avocate. Est-ce qu'il y a son nom?
Non, parce qu'elle n'était pas confirmée, mais d'accord. C'est Maître Horta, a priori, qui vient.
Maître Horta, d'accord. Et donc, pour s'inscrire, l'adresse mail 24 et 25 septembre 2022, @orange.fr, inscription gratuite. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.